Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité. Je vais vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran soutient l'intégrité territoriale des États de la région, a réitéré le chef de la diplomatie iranienne. Un convoi militaire américain a été visé à Divaniya en Irak et le chef de l'armée soudanaise demande à l'Union africaine de rétablir l'adhésion du Soudan. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'Iran soutient l'intégrité territoriale des États de la région. Les frontières internationales sont immuables. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait ses remarques lors d'une réunion dimanche 21 novembre avec le premier vice-premier ministre d'Azerbaïdjan, Shahin Mustafayev, qui était à Téhéran pour une visite d'une journée. Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé des points de vue sur les derniers développements dans la région du Caucase ainsi que sur la coopération entre Téhéran et Bakou dans divers domaines d'intérêt mutuel. Soulignant la position inébranlable de l'Iran pour soutenir l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que les frontières internationales dans la région sont immuables. Le ministre iranien a également salué les relations commerciales mutuelles et les liens profonds entre les deux nations, rappelant que les deux pays devaient tirer parti de leur potentialité mutuelle dans divers domaines du commerce, des transports, de l'énergie et du tourisme. Le premier vice-premier ministre d'Azerbaïdjan, qui avait eu des réunions constructives avec les ministres iraniens du pétrole ainsi que des routes et du développement urbain, a déclaré que les deux pays étaient sur le point de signer des accords importants dans les secteurs du pétrole, du gaz et des transports. Mustafayev a également salué le rôle constructif joué par les ministres des Affaires étrangères iraniens et azerbaïdjanais dans le règlement des récentes tensions dans la région du Caucase, affirmant que la Commission conjointe de coopération économique des deux pays tiendra une session début 2022. Le chef de la diplomatie iranienne a eu également une rencontre dimanche avec une délégation russe à Téhéran pour discuter de la Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères a reçu l'envoyé spécial du président russe pour la Syrie, Alexander Lavrentiev, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Vershinin et la délégation qui les accompagnait pour une réunion dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères à Téhéran dimanche après-midi. La délégation russe est arrivée à Téhéran après une visite à Damas, lors de laquelle elle a rencontré le président syrien Bachar el-Assad. Se référant à la coopération régionale entre les deux pays Iran-Russie, Amir Abdollahian a décrit la coopération conjointe entre les deux pays en Syrie comme une expérience totalement réussie qui s'est faite dans le respect du gouvernement et de la souveraineté syrien. Le haut diplomate iranien a également souligné la nécessité d'utiliser l'expérience réussie de coopération conjointe entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme en Syrie et d'utiliser cette coopération comme modèle pour une coopération étroite entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie avec l'objectif de jouer un rôle sur le plan économique dans la reconstruction de la Syrie et l'instauration de la stabilité dans ce pays. La coopération Iran-Russie dans le cadre du format Astana et les pourparlers syro-syriens comme seule solution politique à la crise syrienne étaient d'autres questions discutées par les deux parties. L'envoyé spécial du président russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, les deux responsables syriens ont qualifié les questions liées à la Syrie d'importantes et se référant à leurs récents entretiens à Damas, ont expliqué la dernière situation des actions et des développements secondaires liés à la Syrie sur la scène internationale et avec d'autres secteurs. Ils ont souligné l'importance des pourparlers et des échanges de délégations entre les deux pays sur diverses questions d'intérêt mutuel dans les domaines bilatéral, multilatéral et syrien et ont informé la partie iranienne de leurs récents entretiens à Damas sur les derniers développements dans ce pays. En Irak, un convoi logistique des occupants américains a été visé par le groupe de résistance surnommé Asap al-Kahf, compagnon de la CAV, dans la province de Divaniya. Un autre convoi a été ciblé dans la province de Babylone. C'est la 170e attaque lancée par l'axe de la résistance contre des convois logistiques américains depuis le début de cette année. 40 attaques ont également été menées contre des convois militaires et des positions des forces d'occupation américaines dans la province de Babylone et 34 autres dans la province de Divaniya. Un convoi logistique des troupes américaines a par ailleurs été ciblé vendredi 19 novembre dans la ville de Nasiriya, dans la province de Dhiraar, par le groupe de résistance irakien. Un certain nombre des FDS, forces démocratiques syriennes, ont été tués et blessés dans deux attaques séparées menées par les factions populaires dans les deux banlieues de Asaka et de Deir ez-Zor. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de l'agence de presse officielle syrienne Sana que les factions populaires à Asaka avaient pris pour cible un véhicule 4x4 qui transportait à bord un certain nombre de FDS et ce sur la route reliant les deux villages d'Abu Manaseb et d'Al-Rekabia, relevant de la localité d'Al-Yaroubiya dans la banlieue de Asaka. Les sources ont indiqué que le véhicule avait été brûlé et nombre d'hommes armés de la milice FDS avaient été blessés. Par ailleurs, des sources locales dans la banlieue est de Deir ez-Zor ont fait savoir que les factions populaires avaient visé avec les armes automatiques l'un des points de contrôle des FDS dans la localité de Soeidan, tuant ainsi l'un des hommes armés de cette milice. 5 000 personnes ont rejoint le processus de réconciliation à Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie, a annoncé Sana le 21 novembre. Les autorités syriennes ont lancé le processus il y a exactement une semaine en coordination avec les chefs des tribus locaux, dont le cheikh Nouaf al-Bashir, chef de la tribu al-Bagara, et l'un des dirigeants les plus éminents de l'est et du nord-est de la Syrie. Le processus de réconciliation offre une seconde chance à tous les civils et militaires recherchés par les autorités syriennes pour se soustraire au service militaire ou déserter les rangs de l'armée régulière syrienne. Les FDS qui détiennent le nord-est, l'est et le sud-est des réseaux n'ont pas coopéré avec ce processus. En plus, elles ont mis en garde leurs éléments ainsi que les travailleurs civils travaillant pour eux contre toute adhésion à ce processus. Le préfet de Deir ez-Zor a déclaré que le processus de réconciliation était très bien accueilli et que le nombre de personnes qui venaient le rejoindre atteint des milliers. Damas a mis en place une commission spéciale réunissant les ministères de l'Intérieur et de la Justice ainsi que les services de sécurité pour mettre en œuvre l'accord qui est chargé de délivrer les permis et doit préparer une liste des personnes recherchées et remettre un avis de non-agression au passage de contrôle. Le président du Conseil souverain de transition de Soudan et commandant général des forces armées soudanaises, Abdel Fattah al-Burhan, a demandé dimanche 21 novembre à l'Union africaine de mettre fin à la suspension de l'adhésion du Soudan au bloc panafricain. Selon un communiqué du Conseil souverain, le général al-Burhan a lancé cet appel lors de sa rencontre avec Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, dont le pays préside la session actuelle de l'Union africaine. Le chef de l'armée soudanaise a souligné l'importance du retour du Soudan au sein de l'Union africaine et de la suppression des idées fausses sur les récentes mesures du pays qui ont mis la révolution sur la bonne voie, indique le communiqué. l'Union africaine a suspendu l'adhésion du Soudan le 27 octobre, quelques jours après que le général Al-Burhan avait déclaré l'état d'urgence et dissous le Conseil souverain et le Kabylie. Dimanche, M. Al-Burhan a signé avec le premier ministre soudanais déchu, Abdallah Hamdok, une déclaration politique qui a reconduit ce dernier au poste de premier ministre. La déclaration comprend 14 articles qui visent notamment à réinvestir M. Hamdok en tant que premier ministre, à considérer le document constitutionnel comme la référence constitutionnelle pendant la période de transition, à libérer les prisonniers politiques, à mettre en place des institutions de transition et à enquêter sur les récentes manifestations qui ont fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et les militaires. L'accord stipule aussi que M. Hamdok devra former un gouvernement civil avec des compétences civiles indépendantes. La déclaration précise que la mission du Conseil de souveraineté est de superviser la période de transition sans interférer avec les tâches exécutives du gouvernement. Le Soudan est aux prises avec une crise politique depuis que le général Al-Burhan a décrété l'état d'urgence le 25 octobre et ordonné la dissolution du Conseil de souveraineté et du gouvernement. Le 11 novembre, il a publié un décret constitutionnel formant un nouveau Conseil de souveraineté de transition et s'est nommé à la présidence de ce conseil. Par conséquent, la capitale Khartoum et d'autres villes du pays ont connu de grandes manifestations pour rejeter les mesures prises par le commandant général de l'armée. Une autorité transitionnelle civile et militaire a été établie au Soudan après l'éviction du gouvernement de l'ancien président Omar el-Bashir le 11 avril 2019. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Première opération commando à Al-Aqsa. Le 11 novembre 2021 vient d'entrer dans l'histoire. À peine quelques jours après que l'armée sioniste a très clairement annoncé ne plus oser faire passer ses convois militaires par des villes de la Palestine historique, si une nouvelle guerre venait à éclater contre Gaza, et ce, en se fondant sur des rapports alarmants, faisant tous état de la multiplication incontrôlée du nombre d'attaques à l'arme blanche contre les colons à Rots et des tensions sans précédent à Aqa, à Lot. Rapports alarmants qui ont même poussé la Grande-Bretagne à laisser tomber les masques et à blacklister la résistance Hamas dans l'espoir de ralentir l'irréversible déclin israélien. Une opération commando avec une portée géostratégique vient de secouer la ville de Rots. Une fusillade très rapidement transformée en échange de tirs est tenue par deux braves combattants palestiniens déguisés en sionistes orthodoxes dont l'armée israélienne, totalement choquée, ne cesse de dénoncer l'appartenance au Hamas. Mais est-ce important? Que ce soit des membres, oui ou non, du Hamas, du djihad islamique ou même des Palestiniens de la Cisjordanie, cette première attaque armée d'envergure visant les colons aurait demandé au préalable de minutieuses planifications et surtout un réseau militaire opérationnel et de renseignements étendus depuis Gaza à la ville d'Al-Rots, un réseau qui a percé allègrement les barrières sécuritaires et en renseignements sionistes pour prouver, si besoin est, que la réunification de la Palestine est désormais acquise et que la décolonisation s'accélère. Selon ce rapport, 4 personnes ont été blessées, un militaire sioniste liquidé et un des membres du commando palestinien tombé en martyr. Or, les images de ce tout premier combat en pleine Rots le confirment. L'armée israélienne n'a rien vu venir. Les premiers coups de feu ont éclaté non loin de Bab al-Salsala, l'une des portes les mieux protégées de la mosquée, et vu la précipitation des policiers qui se bousculent vers les lieux de l'incident, on comprend l'ampleur du choc. Certains journaux israéliens reconnaissant que l'assaillant Fadi Abou Sheikh Ridam de Shafat était originaire de la vieille ville de Rots. Cette affaire de fusillade va-t-elle en rester là? Rien n'est moins sûr dans la mesure où l'entité se trouve là face à un autre impact de l'opération Épée de Roth qui a réuni la Palestine historique, Gaza et la Cisjordanie. Peu avant cette première opération commando qui confirme l'extension de la lutte armée en plein cœur d'Israël, opération aussi surprenante que l'évasion de Gilboa, la résistance palestinienne rendait publique cette priorité de toutes ses priorités. Interrogée par la chaîne Al-Rots, Ania explique « Défendre la cause palestinienne, défendre la sacralité de la résistance, quitte à l'étendre à l'intérieur, à l'extérieur de la Palestine jusqu'en Palestine historique, revenir à l'unité originelle et tisser des liens à l'échelle arabe islamique, établir des relations avec le monde au regard de la montée en puissance de la résistance dans la région et évidemment protéger Rots contre l'ennemi sioniste. » Ses priorités, Gaza les a remises au Caire, le médiateur. N'empêche qu'après l'opération de ce dimanche à Rots, l'entité n'a plus beaucoup de choix. En réaction à cette opération, le gourou Bennett a décrété l'état d'urgence tout en continuant à bluffer comme d'habitude. C'était dangereux, mais nous avons pu neutraliser une opération qui aurait pu être encore plus dangereuse, a-t-il lancé aux sionistes qui se trouvent en état d'alerte et pour la première fois, non pas pour cause des missiles de Gaza, mais bel et bien en raison de l'effondrement du front intérieur. Il est vrai que l'épée de Rots n'a pas dit son dernier mot. Qu'on se le dit sans façon, Gaza a acquis des capacités à organiser les cellules militaires, à les envoyer en Cisjordanie. Elle a une capacité de nuisance cybernétique propre à paralyser les infrastructures israéliennes. Mais le coup armé à Rots est de loin le coup de grâce à Israël. Car avoir à faire face tous les jours à des fusillades qui partent de surcroît de l'intérieur des processions religieuses orthodoxes, c'est une tentative à faire dresser les sionistes contre les sionistes. Désormais, les policiers israéliens pourront ouvrir le feu à la vue d'un rabbin, d'un israélien lambda, du moment qu'il se comporterait de façon bizarre. C'est le début des guerres fratricides intersionistes. Avouons que les Palestiniens, qui depuis la guerre du mois de mai ne cessent de surprendre le monde, ont fait un saut stratégique en avant. Après avoir poussé l'armée à éviter de traverser les villes arabes, les voici qui poussent les sionistes à se tirer de dessus.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Les négociations portant sur la levée des sanctions injustement imposées au peuple iranien vont avoir lieu le 29 novembre à Vienne. C'est dans un tel contexte que le président iranien Ebrahim Raisi a annoncé que l'Iran avait désormais accès à ses avoirs financiers, financiers dans deux trop pays. Et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, de négociateur en chef du côté de Téhéran, a déclaré que l'avenir de ces négociations dépend d'une volonté sérieuse de lever toutes les sanctions injustement imposées au peuple iranien. Et c'est toujours dans ce contexte que l'Iran a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique à s'abstenir de tout propos hâtif ou politiquement motivé sur les activités nucléaires iraniennes. C'est de ce sujet qu'on va vous en parler dans le cadre de l'émission débat d'aujourd'hui avec deux analystes politiques et spécialistes sur les questions internationales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Plus d'actions concrètes en échange des promesses de monts et merveilles. Voici une phrase qui peut bien résumer l'approche du gouvernement d'Ebrahim Raisi vis-à-vis de tout dialogue avec l'Occident. Pas de dialogue, sous pression. Le 4 septembre, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la reprise des négociations pour la levée des sanctions était bien à l'ordre du jour de son gouvernement, mais qu'elle ne pouvait pas se tenir dans un contexte de pression. Nous ne sommes pas pour un dialogue dans le vide, a ajouté M. Raisi. Le dialogue que nous cherchons est celui pouvant aboutir à un résultat concret, qui est la levée des sanctions, a-t-il indiqué. Les choses ont changé et tout dialogue avec l'Iran demande des préalables. Voici le message destiné à l'Occident que Raisi a envoyé à plusieurs reprises et sous différentes formes. Lors d'un entretien télévisé diffusé en direct le 2 octobre dernier par la télévision iranienne, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les Américains devraient débloquer une partie des fonds de l'Iran s'ils voulaient faire preuve de leur véritable volonté. Lors de mon séjour à New York pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies, les Américains montraient des signes favorables au dialogue, mais ils devraient débloquer une partie des fonds de l'Iran s'ils veulent faire preuve de leur véritable volonté. De son côté, Ali Borelli, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour le département politique, a annoncé le 3 novembre sur son compte Twitter que les négociations de Vienne destinées à la levée des sanctions illégales des États-Unis débuteraient le lundi 29 novembre. Reste à savoir si les Américains débloqueront 10 milliards de dollars des fonds de l'Iran, comme Amir Abdollahian l'avait demandé avant le 29 novembre.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission, le débat pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi depuis Damas, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollé. Maître Devollé, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollé, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Narostin, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Arnaud Devollé.
Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les autres parties signataires de l'accord nucléaire de 2015. L'Iran fait preuve de fermeté. L'Iran insiste sur la levée totale des sanctions qui lui sont injustement imposées, surtout par les États-Unis. Comment évaluez-vous ce qui se passe actuellement entre l'Iran et l'Occident avant, si vous voulez, l'ouverture des négociations prévues pour le 29 novembre, s'il vous plaît?
Bien, malgré certaines réticences de presse, nous pensons que, nous estimons, disons, que ces pourparlers sont cependant dans une atmosphère bien plus favorable que ce qui était jusqu'à présent. Il semble que, non pas le bon sens, mais disons un certain sens de la réalité quand même, l'ait emporté et que nous en voulons pour preuve de choses. D'abord, les derniers entretiens par vidéo, je crois, entre lundi dernier, le président chinois et le président américain, dans lequel il a été question de la puissance atomique de l'Iran, et il semble que, disons, quelles que soient les attitudes des uns et des autres, une volonté de régler cette question sur le plan du droit, strictement juridique, soit en cours. Évidemment, il y a des des forces qui s'y opposent. Mais je voudrais rappeler, en préalable à tout ceci, que l'Iran développe là une attitude, pour sa part, qui n'est pas une attitude partisane, mais une attitude entièrement patriotique. Je rappellerai, parce que l'auteur de cette formule vient de mourir, je crois, en Suisse, c'est le fils très connu du général Zahedi, autrefois qui a joué un rôle, vous savez, dans l'époque de Mossadegh et autres, qui avait été même déporté par les Anglais en 1941 en Palestine parce qu'il le trouvait trop rebelle. Eh bien, ce Zahedi, qui a été le dernier ambassadeur du régime du Shah aux États-Unis, avait dit dans une conférence donc de d'août 2006 que c'était un droit inaliénable de l'Iran à être une puissance atomique, et compte tenu, bien sûr, des traités de non-prolifération nucléaire. C'est donc ce droit inaliénable qui quand même devrait sauter aux yeux des grandes puissances. Qu'est-ce que nous pouvons objecter à ceci, nous qui avons une puissance nucléaire, en plus, que peuvent objecter les Chinois, les Russes, les Américains, et même l'entité sioniste, qui, comme le sait depuis Mordechai Vanunu, nous savons très bien qu'elle est équipée aussi, alors elle, d'armement proprement nucléaire. Voyez-vous, je crois que les nécessités économiques, le trouble dans lequel le monde est, font que, disons, les réalités doivent l'emporter sur les esprits trop partisans. Et je crois que c'est dans ce vent, disons, c'est ce vent des négociations qui souffle.
Merci beaucoup, monsieur de Dorsiguet. Vous l'avez dit, en fait, le régime israélien est le seul régime au Moyen-Orient qui détient, si vous voulez, l'arme nucléaire, qui détient, si vous voulez, un arsenal nucléaire le plus redoutable militaire. D'ailleurs, mais s'agissant de l'Iran, il faut en fait le préciser que les autorités iraniennes, les plus hautes autorités iraniennes, l'ont en fait dit à maintes reprises que l'arme nucléaire n'a aucune place dans la doctrine défensive de l'Iran. Il y a même, si vous voulez, un décret religieux, une fatwa de la part, si vous voulez, du leader de la révolution islamique qui, en fait, interdit la production et le stockage, si vous voulez, de l'arme nucléaire. Mais l'Iran insiste sur son droit d'avoir accès à un programme nucléaire civil, à, si vous voulez, avoir accès à un programme nucléaire à des fins civiles. Et sur ce point, il n'en est pas du tout question pour l'Iran de renoncer à ses droits, M. Dorsiguet. Bon, ben, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnaud de Volley. Maître de Volley, votre en fait lecture sur ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire, d'autant que plus que on a l'impression que cette insistance du côté de Téhéran sur ses droits commence, si vous voulez, à apporter ses fruits, monsieur de Volley.
Oui, je dirais que ces arrière-négociations sur la reprise des négociations, parce qu'en fait, c'est un processus, dans un processus plus large, qui vraiment laisse entendre que l'Iran ne peut être perçu que comme la partie la plus patiente dans ce processus, et cela participe aussi probablement à cette guerre hybride, cette stratégie qui vise à provoquer l'Iran à faire une erreur qui permettrait ensuite à des comploteurs de pouvoir se targuer, de dire « Voyez, on vous avait dit que tout cela n'était qu'une perte de temps. Hein. » Donc l'Iran a très bien compris effectivement où sont ses intérêts, a très bien compris la psychologie non seulement des parties contractants, mais aussi des parties influentes, parce qu'ils sont là aussi, ces parties sont là et pèsent de tout leur poids sur ce processus. Et maintenant, il convient d'attendre de voir, parce que en fait, là, les actions comptent plus que les mots. N'oublions pas que, fondamentalement, en droit, les États-Unis devraient lever toutes les sanctions, s'acquitter de toutes les obligations contractuelles qui figuraient dans l'accord originel de juillet 2015. Et non pas d'un côté chercher à dénaturer le fond des négociations afin d'y incorporer des volets qui porteraient sur des sujets absolument autres que celui de la capacité pour l'Iran à pouvoir. Et vous l'avez dit, et c'est très important de le souligner, pour bénéficier de l'usage, du développement de son industrie civile, je dis bien civile, dans le sens où le traité de non-prolifération, le régime de non-prolifération, le fait que l'Iran ait déclaré ses activités et donc signé ensuite ce traité, lui permet effectivement, et ceci sans même un accord nucléaire quelconque, de procéder de cette sorte. Si l'Iran a accepté de participer à ces négociations à partir de, on va dire, de 2012-2013, c'était pour garder, si je puis dire, préserver un cadre de négociation et d'apaisement des tensions dans la région. Mais les agences américaines elles-mêmes ont souligné et répété à maintes reprises, et on parle de cela, de cette espèce de papier qui est formulé tous les 4 ans par toutes les agences de renseignement américaines, et 2003, 2007, 2011, à chaque fois, et alors même que les tensions étaient au plus haut, on va dire vers 2007-2008, alors qu'il était question, on le sait maintenant, que sous l'impulsion de l'ancien vice-président Cheney, une action militaire soit entreprise contre l'Iran, il n'y avait absolument aucune trace de ce que les provocateurs aiment mettre en avant, à savoir une capacité selon laquelle l'Iran pourrait développer une arme nucléaire dans les 3 mois, dans les 6 mois. Ça fait des années qu'on entend cette petite musique. On a eu des présentations plus ou moins répétées de manière loufoque l'Assemblée générale des Nations Unies, et on s'aperçoit finalement que l'Iran a toujours été constant. Maintenant, il reste à effectivement poursuivre un processus qui reste extrêmement compliqué et extrêmement semé d'embûches, où il faudra, et on a encore vu cette semaine le directeur de l'Agence internationale atomique essayer de laisser entendre qu'il était, je cite, « extrêmement difficile d'avoir accès aux activités qui pourraient avoir lieu dans les centrales nucléaires en Iran », alors même que le processus de résomption du traité sont en cours. Donc, l'Iran, dans le cadre de l'accord en cours, avait tout à fait le droit de mettre un terme effectivement à désactiver les caméras qui figurent au sein des centrales nucléaires. Donc il faut surtout éviter de tomber dans ces provocations. Visiblement, le directeur de l'AIEA était dans un rôle où il est sous pression lui-même, mais ce n'est rien de nouveau. Beaucoup des agences onusiennes sont sous pression politique, que ce soit l'Agence pour la prohibition des armes chimiques, que ce soit l'agence en question qui porte sur le contrôle des installations nucléaires. Tout le monde est plus ou moins sous pression permanente pour essayer, encore une fois, de mettre en avant des soi-disant motivations profondes de l'Iran, alors que l'Iran ne veut juste que l'accord soit appliqué à tel qu'il a été conclu et cristallisé en droit international, avec la résolution 2231 enregistrée auprès du secrétariat général des Nations Unies.
Merci beaucoup, Maître Develé. Monsieur Dortiguier, vous l'avez dit, vous l'avez en fait évoqué tout à l'heure, cet entretien téléphonique entre les présidents chinois et américains, l'Iran a été au menu, si vous voulez, de leur entretien, mais s'agissant, Monsieur Dortiguier, de ses prochains pourparlers à Vienne, et la Russie, la Chine, tout comme l'Iran, estime que voilà, la partie fautive, ce sont les Américains, c'est les États-Unis, et il revient à la partie fautive, c'est-à-dire les États-Unis, si vous voulez, de revenir à leurs engagements. Et l'Iran, lorsqu'il a décidé de réduire ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire, l'a dit clairement que voilà, il s'agit de mesures réversibles. Et une fois les autres parties, en fait, une fois, si vous voulez, les engagements pris par d'autres parties constatés, l'Iran, en fait, peut également de revenir, si vous voulez, à ses engagements. C'est pourquoi, Monsieur Dortiguier, on a l'impression qu'il y a une communauté de vues entre l'Iran, la Russie et la Chine, comme quoi ce sont les Américains qui devront, en fait, revenir tout d'abord, dans un premier temps, à leurs propres engagements, Monsieur Dortiguier.
Oui, en effet, il est certain que les Américains sont considérés comme peu, disons, maîtres d'eux-mêmes dans cette affaire-là, à savoir qu'ils ne voient pas les choses comme elles sont, ils ne voient pas ce qu'ils ont signé, ils le comprennent très bien, naturellement, mais ils sont soumis à des pressions, il faut le dire, extérieures et certainement intérieures, bien sûr, et qui viennent, bien sûr, de partis qui sont peut-être des partis du sionisme ou autres, qui ont intérêt, non pas à à ce qu'ils fassent, à ce que les Américains engagent telle ou telle action, mais restent toujours dans une turbulence, si vous voulez, dans une sorte de... mettons de d'instabilité dans leur relation avec l'Iran. Je ne définirais pas mieux cette relation entre les États-Unis, l'Iran et puis même les autres puissances que vous citez, la Russie, la Chine. Je crois que les Américains sont partagés entre le réalisme, je reprends ce mot, qui est quand même qui a toujours été un critère de leur conduite, qui a assuré même la prospérité américaine dans le bon sens du terme, la qualité du travail américain. Ça, c'est un premier fait. Mais les Américains sont entravés dans leurs décisions. Alors, bien sûr, ils ont leurs responsabilités, mais il faut qu'eux-mêmes aient le courage, de passer au-dessus des chantages qui leur sont faits, exercés essentiellement, on peut dire, par l'entité sioniste. On ne peut pas, historiquement, on ne peut pas le nier. Et alors, je crois que la situation internationale, surtout économique et financière, oblige justement à ce que j'appelle cet effort de réalisme commun entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Et je crois que c'est justement cette crise internationale, cette crise financière, cette instabilité, si vous voulez, économique, qu'il faut régler, pourrait encourager les Américains justement à écouter, à prendre confiance en eux-mêmes, sur les conseils de gens qui ne sont pas seulement des rivaux, mais qui sont des partenaires économiques. On peut dire les choses comme ça, à savoir la Russie et la Chine. Je crois qu'il y a une entente, c'est une suggestion que je fais, une entente recherchée par les Américains avec ce qu'on peut appeler l'Orient, c'est-à-dire les anciens États communistes, qui le sont restés un peu quand même, qui essaient d'évoluer aussi selon des critères modernes. Et je crois que cette tendance-là, elle ne peut que triompher. C'est pour ça que tout est de la part de l'Iran, comme des partenaires de l'Iran, une question, je crois, de courage, une question d'indépendance. L'Iran montre, à notre avis, des signes de maîtrise, de soi. Il dit exactement quel est son droit, ce droit qui lui aura été reconnu en 2015. Mais d'autres succès dans d'autres domaines, en particulier la fin ou le ralentissement des luttes en Syrie et au Yémen, par exemple, peuvent aussi, contribuer à ce que le bon sens l'emporte sur les professionnels de l'agitation.
Merci beaucoup. Monsieur Maître de Volley, est-ce que vous aussi, tout comme Monsieur Dortiguet, vous estimez qu'il faut que les Américains, les États-Unis, se rendent à l'évidence, et pour ce faire, les États-Unis devront faire preuve de courage, de réalisme et de ne pas laisser, par exemple, M. Dortiguet a fait allusion au régime israélien et également d'autres régimes, peut-être dans la région, de ne pas laisser, si vous voulez, faire chanter par ces acteurs également.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est probablement le fond de l'affaire quand on y réfléchit, parce qu'effectivement, le pragmatisme protestant a toujours défini le l'ethos américain, si je puis dire, états-unien, on devrait dire. Et en cela, cette tendance lourde à laquelle nous assistons depuis l'assassinat de Kennedy, mais de plus en plus, de manière prononcée depuis, on va dire, les années Reagan, fait qu'aujourd'hui on a un département d'État complètement contrôlé par les néoconservateurs, que ces néoconservateurs au Pentagone et que du réseau Epstein, que les services secrets israéliens contrôlent la classe politique américaine au travers de chantages divers et variés, ce qui laisse entendre que ils ont des moyens de pression, c'est certain, et que il faut vraiment rester très prudent, parce que la pénétration est tellement profonde et tellement pervasive, comme on dit, c'est un anglicisme, mais pernicieuse, je devrais dire, que dans ce contexte-là, il est difficile de penser qu'on puisse toujours s'en remettre exclusivement au bon sens, si je puis dire, oui, au bon sens protestant, bien compris, sachant que eux-mêmes, dans ce contexte-là, pour des raisons de politique interne, il y a un électorat qui partage une compréhension de l'eschatologie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu comprendre des écritures en ce qui concerne en tout cas la religion chrétienne, et au contraire on est plutôt dans une, et ça aussi ça fait l'objet d'une manipulation et d'une simulation par le lobby sioniste, bien qu'il cultive cette conversion.
Merci.
De tirer des conclusions comme quoi cet électorat et pourrait effectivement, à la faveur des élections qui sont tous les deux ans, obtenir cette convergence entre les intérêts sionistes et les intérêts évangélistes.
Maître Arnaud de Volley, Pierre Dortiguier, je vous remercie tous les deux d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas et depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Et je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Une vie, une vie, une œuvre. Une œuvre. Une œuvre.
Terre brûlée d'Ahmad Mahmoud. Le premier roman de la guerre Iran-Irak. Ahmad Mahmoud, de son vrai nom Ahmad Ata, né en 1931 à Ahvaz, au sud-ouest de l'Iran, chef-lieu de la province de Khuzestan, située sur le littoral du golfe Persique. Outre ses nouvelles, recueillies dans une dizaine de volumes séparés, Mahmoud a aussi rédigé 5 romans, dont les 2 derniers sont en plusieurs tomes. Les 3 premiers romans constituent un cycle romanesque, une trilogie dont les 3 volets peuvent être lus séparément. Tous les 3 sont, sinon dotés d'un caractère autobiographique, du moins touchés par la vie personnelle et la sensibilité de l'écrivain. Hamza Yeha, Les voisins, écrit en 1966 et publié en 1974, Dastan et Ekshar, Histoire d'une ville, écrite en 1979 et paru en 1981, et Zamine Sourté, Terre brûlée, que Mahmoud termine en 1981 et qui est publié l'année suivante et dont nous vous parlerons plus en détail dans cette émission. Terre brûlée. Dernier jour d'été. La sieste de l'après-midi m'alourdit l'esprit. La narration commence exactement au moment du commencement officiel de la guerre, avec le passage de la frontière par les divisions irakiennes. Le narrateur vient de se réveiller à 18h, après une longue sieste de 4h. Il sort de la maison paternelle pour faire un tour dans la ville où il apprend la nouvelle de l'invasion de l'armée irakienne. Ce roman de guerre, au langage simple, ne raconte pas les combats de rue ou les batailles du front. Le narrateur n'est d'ailleurs pas un soldat ou un engagé volontaire. C'est un ouvrage qui raconte le quotidien des habitants d'une ville plutôt frontalière, confrontée à une invasion militaire, qui doit faire face aux difficultés, à la mort et aux privations de la guerre. Le second chapitre du roman se clôt sur la mort du frère du narrateur, Khaled, tué par un éclat d'obus dans la cour d'un hôpital de la ville. Les 3 chapitres suivants se terminent également par des décès. Le dernier est enfermé par une scène de carnage. Une roquette frappe le centre-ville, tuant une douzaine de personnages du récit. Le roman est composé de 5 chapitres et fait 350 pages. L'auteur en a fait dédicace à son frère martyr Mahmoud. À noter qu'Ahmad Mahmoud a séjourné ponctuellement dans sa ville natale d'Ahvaz tout au long des années de guerre et est un témoin direct de la résistance des habitants et du quotidien d'une ville proche du front. Tout en essayant de décrire la situation guerrière et son impact sur la vie de la ville, l'auteur porte un regard analytique, voire parfois critique, sur le comportement de certains habitants, comme par exemple l'épicier Karl Chaban, qui s'enrichit en spéculant sur les denrées alimentaires. Le spéculateur, qui accumule la colère des gens du quartier à son égard, voit ses magasins pillés par un délinquant récidiviste, Fereydoun, surnommé le Bajgir, qui est ensuite arrêté par des Pastaran, forces de milice populaire créées au lendemain de la révolution et qui ont joué un rôle prédominant dans la guerre. L'épicier spéculateur est finalement tué lors du bombardement de l'épisode final du récit. Parmi les lieux clés des romans de Mahmoud, on peut évoquer le café traditionnel, la plupart du temps situé près de la plage. Dans ce roman, c'est le café de Mahdi, surnommé Papati, nu-pied, où se rassemblent nombre de personnages et qui sert de lieu de débat et de discussion. Le régionalisme d'Ahmad Mahmoud se manifeste, entre autres, au travers de l'attribution de sobriquets aux personnages. Il souhaite par là insister sur la dimension collective de la vie sociale. Nombreux sont les romans de guerre qui contiennent des histoires d'amour, racontant ou bien une aventure amoureuse restée inachevée par la mobilisation et souvent agrémentée de la présence épistolaire ou mémorielle d'une fiancée ou des amourettes survenues pendant la guerre. Cependant, dans ce roman, le seul amour mis en scène est celui du jeune Mirza Ali pour la sœur de Gola Batoun, adolescente qui met des jeans pour aller à la boulangerie. Parmi les personnages du roman, citons le narrateur. Il a 4 frères. L'un est tué, le deuxième est engagé volontaire sur le front et les 2 derniers ont préféré quitter Ahvaz pour Khorramabad, ville plus à l'abri de la guerre. Le narrateur vit donc seul avec sa mère, dans leur médiocre domicile situé au sous-sol et donc relativement protégé lors des frappes de l'armée irakienne. La fin du récit est marquée par la solitude du narrateur, témoin de la mort de dizaines de personnes tuées dans le centre-ville par une roquette. Le roman se termine sur cette description. Le soleil a dessiné un clair-obscur sur la mèche du palmier. Le sang asséché couvre toute la main. L'auriculaire de la main est arraché depuis la seconde phalange, main dont l'index vise mon cœur comme une douleur, comme une insulte, comme une flèche à 3 ailettes. La place de terre brûlée dans l'œuvre d'Ahmad Mahmoud. Troisième volet d'une trilogie, ce roman constitue un point fort dans l'ensemble des œuvres de l'auteur. Écrit dans le style clair et fluide qui caractérise la plume d'Ahmad Mahmoud, le roman met en scène des techniques narratives propres à un réalisme iranien qui essaye de donner une image à la fois précise et contrastée d'une société en pleine évolution. Ce qui distingue cette œuvre des romans précédents de son auteur est avant tout son genre, qui est celui d'un récit de guerre. Par ailleurs, bien que le roman soit loin de raconter la vie des tranchées, l'écrivain a rédigé son rapport riche et coloré à partir de ses constatations personnelles dans une ville engagée dès le début du conflit dans cette guerre imposée à l'Iran. La date de rédaction de ce roman, écrit à chaud dans les premières semaines du conflit, lui donne également une certaine valeur de témoignage de ses premiers jours. Pourtant, la simultanéité de la rédaction de l'ouvrage aux événements n'empêche pas l'auteur de concevoir une vision perspicace des faits et ne l'empêtre pas dans un rapport simpliste et naïf des incidents. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.
Mm-hmm.